Je vais donc cette année vous parler de l'encyclique de Saint Pidis, intitulée par son premier mot Pascendi. Cette encyclique qui a donc visé en 1907 à détruire ce qu'on a appelé, ce que Saint Pidis lui-même a appelé le modernisme. Et il a précisé lui-même ce qu'il entendait par là. Il voulait donc tout simplement annihiler des ennemis, car il a dit lui-même, des ennemis de l'Église. Alors il nous sera bon de relier cette encyclique, car la question finalement posée, c'est celle donc annoncée, est-ce que le modernisme dont parle Saint Pidis en 1907, est-ce que ce modernisme existe toujours, ou est-ce qu'il est mort, ou a-t-il pris d'autres formes? Comment le savoir? Il s'agit pour nous, eh bien, de savoir d'abord ce que c'est que le modernisme, tel que Saint Pidis l'a envisagé, et puis à la suite de cette connaissance qu'en donne Saint Pidis, d'essayer de constater tout simplement dans la réalité donc, qui nous entoure, si on retrouve les thèmes développés, abordés, expliqués par le pape lui-même encore aujourd'hui. Alors ce soir, je ne vais faire simplement qu'exposer cette encyclique, poser en quelque sorte le problème, avant de le résoudre dans la lecture elle-même de l'encyclique, puisque mon but c'est finalement de lire de façon détaillée, de commenter l'encyclique du pape Saint Pidis, qui, vous pourrez le remarquer, j'espère, en tout cas à la fin de cette année, fut donc un pape extrêmement clairvoyant, et si le mot aujourd'hui n'était pas dangereux, je dirais qu'il fut même prophète en son temps, car vous pourrez remarquer alors qu'il a quasiment prévu tout ce qui nous arrive aujourd'hui, dans les moindres détails, au moins dans les grandes parties théologiques, dogmatiques et morales que vit l'Église. Alors voyons d'abord un petit peu la situation dans laquelle Saint Pidis agit, et qui va le pousser en quelque sorte à écrire cette encyclique. Dans la mesure où c'est une encyclique, elle n'est pas conditionnée, elle ne dépend pas en tant que telle d'une situation. Saint Pidis, dans une encyclique, entend exprimer une vérité, mais la situation historique est pour lui l'occasion d'affirmer ou de réaffirmer cette vérité qu'il va développer. Je m'appuierai surtout ce soir sur des documents qui sont peut-être connus, de gens qui font autorité dans ce domaine-là. C'est en particulier Émile Poula, qui est un historien sociologue qui a publié beaucoup de livres sur le modernisme, c'est sa spécialité, il travaille au CNRS. En particulier un, donc, qui s'appelle Modernistica, et qui est publié aux Nouvelles Éditions Latines, donc Émile Poula. Bon, c'est un catholique, d'après d'autres références qui le citent, il fait partie par tradition familiale d'un milieu qui était plutôt, justement, anti-moderniste, mais quant à lui, donc d'après des informations tout à fait privées, c'est un prêtre défroqué qui a été professeur, donc, au séminaire de Conflans à Paris, donc enseignant le latin et le grec. Donc il connaît bien le problème dont il va parler. Et il est actuellement cité par tous ceux qui traitent du modernisme, comme faisant autorité. Il a effectivement fouillé quasiment toutes les archives et a mis donc en valeur ce grave problème. C'est lui qui, en quelques lignes, explique un petit peu la déclaration de guerre, comme on l'appelle, de Saint Pidis contre les modernistes. Il dit ça page 39 de son livre. Voilà ce qu'il nous dit. « L'orage éclata au début de ce siècle. En 1900, Adolphe Harnack, un historien allemand des origines chrétiennes, de réputation internationale, avait publié un recueil de conférences à ses étudiants de Berlin, intitulé « L'essence du christianisme », qui était une apologie historique du protestantisme libéral, et fut traduit en français en 1902. Aussitôt, Loisy, donc Alfred Loisy, on retrouvera, qui est un prêtre donc catholique, relevait le gant et sortait un petit livre, « L'Évangile et l'Église », donc d'Alfred Loisy, qui était une apologie historique, à dire vrai, non du système romain, mais d'un catholicisme éclairé. L'ouvrage fut jugé dangereux pour la foi, et plus encore les explications de son auteur qui le suivirent. Ce fut la condamnation par l'archevêque de Paris d'abord, puis par le Saint-Office. Donc le prêtre Alfred Loisy, qui a écrit ce livre connu à l'époque, célèbre, « L'Évangile et l'Église » est immédiatement condamné. Loisy se soumit, la mort dans l'âme, mais le processus étant enclenché. Donc c'est lui, en quelque sorte, le point de départ, l'origine de cette crise moderniste. Le 17 juillet 1907, paraissait alors un document du Saint-Office, qu'on a appelé le décret Lamentabili, qui est une suite de 65 propositions solennellement réprouvées. Presque toutes les propositions de ce décret étaient tirées d'auteurs français, et plus des 4/5 de, justement, Loisy. Et le 8 septembre suivant, le pape Saint-Pidis promulguait l'encyclique Pascendi sur les doctrines des modernistes, où la partie doctrinale était suivie d'une partie disciplinaire. Donc l'ennemi numéro un, celui qui est d'abord visé, qui finalement met en avant ces doctrines que Saint Pidis va condamner, c'est Alfred Loisy, donc un prêtre. Un prêtre qui finira donc apostat, excommunié bien sûr, par Saint Pidis. Voilà le début, c'est l'origine, le point de départ en quelque sorte, et vous voyez que le point de départ, avant même Loisy, c'est donc Arnac, très connu aussi, qui est un protestant. Et c'est lui qui en quelque sorte livre un petit peu la bataille, engage la bataille contre l'Église, magnifiant un petit peu finalement le bienfait du protestantisme contre l'Église catholique trop raide dans ses rapports avec le protestantisme, mais aussi avec les sciences, ou la modernité, si on veut, qui commence à éclore à l'époque de Saint-Pilice et qui avait déjà abondé avant, durant le pape précédent, qui était Léon XIII. Alors qu'est-ce que c'est que le modernisme? Qu'est-ce que c'est, avant même de lire l'encyclique, comment est-elle vue, justement? Eh bien, toujours par Poulard, qui parle, là, encore une fois, disons, lui se mettant en retrait, comme un sociologue qu'il est, et qui ne fait que expliquer, dit-il, froidement les faits. Comment voit-on le modernisme? Qu'est-ce que c'est que ce modernisme? Pourquoi Saint-Pilice pourra-t-il parler, lui le premier, de modernisme? Eh bien, Poulard vous précise la chose encore, de façon assez bien, page 42 du même livre. Alors qu'on ne parlait pas encore d'aggiornamento, le modernisme a été au début du siècle l'une de ces crises dont le souvenir est demeuré profond. L'occasion en était la rencontre brutale de l'enseignement ecclésiastique traditionnel avec les jeunes sciences religieuses qui s'étaient constituées loin du contrôle des orthodoxies et le plus souvent contre elles, à partir d'un principe révolutionnaire. L'application des méthodes positives, donc les méthodes, si vous voulez, utilisées par les sciences modernes, dites modernes, à un domaine, à des textes, jusqu'ici considérés comme hors de leur prise. Les modernistes, justement, vont vouloir appliquer les techniques scientifiques, qu'on pouvait utiliser éventuellement en histoire, ou même dans les sciences naturelles, à tous les écrits sacrés, en particulier l'écriture sainte, ou même les textes du magistère. Alors l'initiation à ces méthodes posait aux savants catholiques un dilemme troublant. Voir dans cette laïcisation scientifique de l'univers religieux une contradiction intrinsèque et une profanation coupable. C'était se refuser à tout travail réel, donc, et se placer en position d'infériorité. Donc, si vous voulez, les auteurs chrétiens se trouvent comme partagés entre vouloir bénéficier des sciences modernes, qui se développent alors avec une grande vitesse, puisque c'est le scientisme du XIXe siècle, ou bien rester, disent-ils, dans cette espèce d'étroitesse d'esprit du catholicisme, et sans pouvoir alors en sortir, sans pouvoir même bénéficier de ce qui pourrait être bon dans les découvertes modernes trouvées. Bref, rester dans une espèce d'obscurantisme qui serait pour eux nuisible à une bonne maturation d'intelligence. Voilà le problème. Voilà le modernisme. C'est comme une division chez ces auteurs qui sont au départ des auteurs catholiques. Bon, que ce soit Loisy, que ce soit Duchesne, etc. Ils sont nombreux, effectivement, à être mangés par ce dilemme, enfin cette erreur, vouloir absolument donc appliquer des méthodes qui sont propres aux sciences autres que sciences religieuses, aux textes religieux eux-mêmes. D'où profanation, effectivement, probablement coupable. On verra ce qu'en dira Saint-Pédice. Alors, ils sont nombreux à se lancer, en quelque sorte, dans cette modernisation de la science religieuse. Et le modernisme va très vite s'étendre. Le feu est mis par Loisy, mais Alfred Loisy est professeur à l'Institut catholique, donc à côté, et bien sûr, il a une chaire, il enseigne, il a des disciples et il a des maîtres. Car il y a un recteur à cet institut, que va-t-il dire, que va-t-il faire? Est-ce que Loisy va continuer ses cours? Va-t-il être immédiatement expulsé? Que vont devenir les élèves? Bref, ce feu lancé par Loisy sera-t-il simplement donc une étincelle qui va vite être recouverte par l'encyclique? Ou bien au contraire, ça va donner une traînée de poudre, et puis on pourrait dire peut-être qu'il brûle toujours. Voilà la question. Alors bien sûr, on l'a vu, dès que Loisy donc lance son livre, qui est l'étincelle qui déclenche l'incendie, c'est donc l'Évangile et l'Église, Saint-Pilice donc réagit immédiatement. Donc nous sommes en 1907, le 8 septembre. Et c'est donc l'encyclique en question, Pascendi, qui commence ainsi, et dans son principe, elle expose tout son but. Il y a quelques phrases que je soulignerai au passage qui sont extrêmement importantes et qui vont montrer la perspicacité du pape à l'époque. Donc il commence par dire effectivement qu'il est de sa mission, le pape Saint-Pilice, sa mission de défendre la vérité contre tous les détracteurs. Il s'appuie pour ça, comme il convient, sur l'apôtre Saint-Paul. Et il dit par exemple, donc, nul âge, sans doute, où une telle vigilance ne fut nécessaire au peuple chrétien, car il n'a jamais manqué, suscité par l'ennemi du genre humain, s'appuyant sur Saint-Paul, d'hommes au langage pervers, diseurs de nouveautés et séducteurs, sujets de l'erreur et entraînant à l'erreur. Mais, et là, Saint-Pilice s'afflige en quelque sorte, il faut bien le reconnaître, le nombre s'est accru étrangement en ces derniers temps, des ennemis de la croix de Jésus-Christ, qui, avec un art tout nouveau et souverainement perfide, s'efforcent d'annuler, dit-il, les vitales énergies de l'Église, même s'ils ne pouvaient, de renverser de fond en comble le règne de Jésus-Christ. Dans les premières lignes de l'encyclique, Saint-Pie dit, les ennemis sont désormais très nombreux, C'est même impressionnant, dit-il, comment ils sont développés dans ces derniers temps. Quel est leur but, finalement, ultime? C'est détruire l'énergie de l'Église, donc finalement détruire l'Église, renverser de fond en comble le règne de Jésus-Christ. Bon, alors il dit effectivement qu'il n'est plus, il ne peut plus se taire, il est de son devoir, dit-il, parce qu'il est pape, de parler. Ce qui exige surtout que nous parlions sans délai, c'est que les artisans d'erreur, dit Saint-Pilice, il n'y a pas à les chercher aujourd'hui parmi les ennemis déclarés. Voilà la difficulté. Et il le précise bien tout de suite. Il n'y a pas à les chercher aujourd'hui parmi les ennemis déclarés. Où sont-ils? Ils se cachent. Très important chez Saint-Pilice, il y reviendra plusieurs fois. Ils se cachent. Et c'est un sujet d'appréhension et d'angoisse très vive dans le sein même et au cœur de l'Église. Voilà le coup donné par Saint-Pilice. Il va viser donc à la racine, s'il peut, du mal, mais cette racine est dans l'Église elle-même. Et non plus, comme jusqu'à présent, toutes les erreurs en quelque sorte s'est développées à l'extérieur. Même si, par exemple, elle s'était développée, l'arianisme, le luthéranisme, le jansénisme, même si toutes ces erreurs se sont déclarées ou ont été causées par des membres de l'Église, tout de suite, ces membres-ci ont cherché, ont été sortis de l'Église. Ils s'en sont très vite séparés, ils n'ont même pas voulu y appartenir. Ils ne voulaient surtout plus appartenir à cette Église qu'ils combattaient. Tandis qu'ici, c'est l'inverse. Ils ne sortent pas, ils sont dedans, ils sont cachés. Nous parlons, vénérable frère, il précise, d'un grand nombre de catholiques laïcs, et c'est encore plus à déplorer, de prêtres. Et sous couleur d'amour de l'Église, donc il s'agit des prêtres, ils sont prêtres en 1907, qui sous couleur d'amour de l'Église, absolument courts de philosophie, de théologie sérieuse, important, sont des prêtres qui ne savent pas grand-chose. Ils sont courts de philosophie et de théologie. Que leur reste-t-il? Imprégnés au contraire jusqu'au moelle d'un venin d'erreur puisé chez les adversaires de la foi catholique. Voilà leur science. Se posent donc au mépris de toute modestie comme rénovateurs de l'Église. Donc ils sont dedans, ils n'ont pas de science, même ecclésiastique. Ils sont imbus de principes extérieurs à l'Église et ils veulent rénover l'Église. Que vont-ils donner? Je saute quelques paragraphes, quelques lignes. Et Saint-Pilice insiste davantage ensuite. Ces hommes-là peuvent s'étonner que nous les rangions parmi les ennemis de l'Église. Nul ne s'en étonnera avec quelques fondements qui, mettant leurs intentions à part, dont le jugement est réservé à Dieu, voudra bien examiner leur doctrine. On ne juge pas les intentions. Qu'ont-ils dit? Que font-ils? Ennemis de l'Église, dit Saint-Pilice, certes, ils le sont. Et à dire qu'elle n'a pas de pire, on ne s'écarte pas du vrai. Donc il revient en quelque sorte à l'idée énoncée plus haut. Il n'y a pas de pire ennemi de l'Église qu'un moderniste. Pourquoi? Ils veulent annuler les vitales énergies de l'Église, disait-il, renverser de fond en comble le règne de Jésus-Christ. Et encore, il répète, ce n'est pas du dehors, on l'a déjà noté, c'est du dedans qu'ils trament sa ruine. Le danger d'aujourd'hui presque aux entrailles même et aux veines de l'Église. Leurs coups sont d'autant plus sûrs qu'ils savent mieux où la frapper. Voilà cette perfidie dont il parlait. Ajoutez que ce n'est point au rameau et au rejeton qu'ils ont mis la cognée, mais à la racine même. C'est à la foi et à ses fibres les plus profondes. Donc c'est le cœur de l'Église, la foi. Effectivement, toute l'Église est fondée sur cette adhésion, qui pour le moment est une adhésion justement basée sur la croyance. On ne voit pas donc l'adhésion à Jésus-Christ. Eh bien c'est là qu'ils attaquent. Alors et par cette racine d'immortelle vie, une fois tranchée, ils se donnent à tâche de faire circuler le virus par tout l'arbre. Évidemment, quand on attaque à la racine, tout l'arbre sera ensuite vite détruit. Le pape continue un peu plus loin, s'il n'était question que d'eux, nous pourrions peut-être dissimuler, mais c'est la religion catholique, sa sécurité, qui sont en jeu. Trêve donc au silence, qui désormais serait un crime. Et Saint-Pilice ajoute, il est temps de lever le masque à ces hommes-là, et de les montrer à l'Église universelle, tels qu'ils sont. Alors la question, j'avais mis un sous-titre qui aurait pu être ambigu, le moderniste est mort ou vif, c'est-à-dire ont-ils ou non jeté le masque? Ou sont-ils encore masqués? C'est-à-dire est-ce qu'on peut les détecter ou pas? Et Saint-Pilice va la précise à ce moment-là, donc dans ce quatrième paragraphe, et comme une tactique des modernistes, c'est la première fois que le mot apparaît. Ainsi, dit-il, appelle-t-on communément avec beaucoup de raison, donc ces gens-là, tactique en vérité fort insidieuse, est de ne jamais exposer leur doctrine méthodiquement et dans leur ensemble. Donc ils sont fins. Et ils précisent bien, jamais d'exposer d'ensemble, jamais de doctrine méthodique. C'est très subtil. Donc il ajoute. Il tend donc à les fragmenter en quelque sorte, les éparpiller ça et là, ce qui prête à les faire juger ondoyants et indécis. Et c'est une caractéristique. Ondoiement et justement indécision. Quand leurs idées au contraire sont parfaitement arrêtées et consistantes. Donc pas de doctrine, on ne verra pas de doctrine établie, on ne verra pas de principe posé, on verra quelques idées par-ci, par-là, effectivement, qui sont comme jetées au hasard, en fait non. Elles sont parfaitement arrêtées, elles sont consistantes, c'est-à-dire elles ont valeur. Saint-Pilice préside encore, il importe ici avant tout de présenter ces mêmes doctrines sous une seule vue. Et voilà le génie de l'encyclique, vous pourrez le découvrir j'espère, c'est que précisément, même d'ailleurs, pour les modernistes eux-mêmes, ils l'avoueront. Ils n'avaient pas, en quelque sorte, ils n'avaient pas trouvé eux-mêmes la synthèse de toutes les idées qu'ils pouvaient prôner partout. Ils éparpillaient leurs idées par-ci, par-là, chacun dans son domaine, Loisy en écriture sainte si on veut, d'autres en philosophie, d'autres en théologie, mais aucun ne prônait justement doctrine, de système. Saint-Pie disait bien, ces mêmes doctrines éparpillées, ces mêmes idées, nous les mettons sous une seule vue. Et il ajoute, afin de montrer le lien logique qui les rattache entre elles. C'est-à-dire, si vous prenez une idée, quelque part, de l'un de ces modernistes, nécessairement, vous êtes entraîné à adopter toute la doctrine des modernistes, dans tous les domaines. Donc, par exemple, si vous estimez que le révérend Père Lagrange dominicain, qui fonda donc l'école biblique de Jérusalem, dont on parle tant, la Bible de Jérusalem, a raison sur tel point d'Écriture sainte, vous admettez, finalement, sans le dire Saint-Pilis, tel problème, eh bien, si vous êtes logique, si vous suivez ce qu'il va vous dire, l'enseignement qu'il va donner, vous admettez finalement toute la doctrine qui est comme sous-jacente ou qui enchasse cette partie simplement avec laquelle vous étiez d'accord. Et vous êtes donc, on pourrait dire, vous devenez alors moderniste à votre tour. Alors, pour procéder avec clarté, dit Saint-Pélis, puisqu'il veut mettre en une seule doctrine toutes leurs erreurs, il va procéder bien sûr lui avec discernement. Pour procéder avec, dans une matière en vérité fort complexe, c'est vrai que c'est très difficile, il faut noter tout d'abord que les modernistes assemblent et mélangent, pour ainsi dire, en eux, plusieurs personnages. Donc c'est vraiment une confusion chez eux. Ils confondent les problèmes, ils se confondent en eux-mêmes, ils sont plusieurs têtes en même temps. Alors il va exposer chacun des points que nous verrons à la suite. Le philosophe, qu'est-ce que c'est qu'un philosophe moderniste? Qu'est-ce que c'est qu'un croyant moderniste? Qu'est-ce que c'est qu'un théologien moderniste? Qu'est-ce que c'est qu'un historien moderniste? Qu'est-ce que c'est qu'un critique moderniste? Qu'est-ce que c'est qu'un apologiste moderniste? Qu'est-ce que c'est qu'un réformateur moderniste? Personnages qu'il importe de bien démêler si l'on veut connaître à fond leur système et se rendre compte des principes comme des conséquences de leur doctrine. Et les conséquences sont épouvantables, dira Saint-Pélis, puisque c'est la ruine, tout simplement, de l'Église catholique, de Jésus-Christ, bon, du surnaturel. Voilà donc le coup d'arrêt, bon, je l'ai dit à l'introduction. Le coup d'arrêt, vous voyez, qui est déjà très précis, Saint-Pélis est très net, très franc. Le coup d'arrêt donné à ces modernistes, ou ceux qui prétendaient rajeunir, rénover l'Église. Comment cette encyclique, alors, sera-t-elle considérée? Est-ce que les modernistes vont s'insurger? Vont-ils dire, non, Saint-Pélis établit une doctrine qui n'est pas notre doctrine? C'est lui qui compose cette doctrine, mais ce n'est pas notre doctrine. Est-ce que Saint-Pélis reste seul dans la lutte contre ces rénovateurs, ou est-ce qu'il est tout de suite aidé par, on pourrait dire, des antimodernistes? Quelle est la situation en 1907 à la parution de son encyclique? Eh bien, une fois que ce jugement est porté, et ce jugement est très dur, un auteur moderne, par exemple, Georges Minois, donc il a écrit ça en 1991 chez Fayard. Dans un livre en deux volumes qui s'appelle L'Église et la science, histoire d'un malentendu. Georges Minois, donc c'est un témoignage, si vous voulez, actuel sur cette encyclique, que dit-il? Eh bien, il dit page 284, donc pathétique tentative pour arrêter l'histoire. L'encyclique Pachendi est l'un des documents les plus cruels sur l'aveuglement des autorités de l'Église au début du siècle. Bon, on pourra ensuite, lorsqu'on aura étudié le réformateur, qualifier peut-être, ou mettre une étiquette sur, enfin, essayer de dire qui est ce Georges Minois. Il précise effectivement sa pensée, donc page 299, ce refus de toute évolution, de toute prise en compte des progrès scientifiques pour une meilleure expression de la foi est la plus grande erreur de l'Église depuis 10. Bon, ça c'est un témoignage de 1991. Mais qu'est-ce qui se passe en 1907? Eh bien, immédiatement, derrière Saint-Pédis, agit ce qu'on appelait donc les intégristes, ou les catholiques intégraux, qui, effectivement, sont heureux de l'acte que vient de poser Saint-Pédis, et vont contribuer à essayer donc d'éteindre, même de supprimer, donc tout ferment de modernisme dans l'Église. Mais le ferment, ce n'est pas des idées. Les idées ne se prennent pas toutes seules, elles sont portées par des hommes, elles sont dites par des hommes. Alors Pachendi sera aidé, effectivement, dans sa lutte contre les modernistes, qui sont dangereux, ils visent à la ruine de l'Église, par ce qu'on a appelé de façon vulgaire la sapinière, dont vous êtes peut-être en train de parler. Alors c'est encore Poulain qui est un spécialiste du modernisme, mais en particulier de cette sapinière, nous dit ce que c'est, que cette société, Sodaitium Pianum, c'est page 52 de son livre, donc la sapinière a vécu de 1909 à 1921. La sapinière, entre guillemets, était le nom familier que s'était donné une pieuse association internationale fondée sous Pie X par un prélat romain notoire, Monseigneur Benigni. Oui, il ne faut pas confondre. Monseigneur Benigni et Bumigny, c'est tout à fait justement différent que c'est noir comme noir et blanc. Donc c'est fondé cette sapinière par Monseigneur Benigni pour défendre précisément le catholicisme intégral, c'est-à-dire justement eh bien, lutter contre tout ce qui s'oppose à cette intégrité de la foi. De son nom véritable, cette société s'appelait Sodalitium Pionum, bon, ou Sodalité en français Saint Pie V, placée, on le voit, sous le patronage du pape de la dernière croisade et de la victoire de Lépante sur les Turcs. Donc voilà qui est Monseigneur Benigni et qu'est-ce que c'est que la sapinière qu'il a fondée. C'est alors, vous savez peut-être, qu'on l'a accusé d'être une société secrète, que Saint-Pédis aurait, comment dirais-je, aidé de ses propres fonds. La discussion était vive au moment du procès de canonisation de Saint-Pédis. Mais Pie XII a examiné de fond en comble tous les documents et a décrété donc effectivement que ce n'était pas une société secrète et qu'on peut l'entendre de la franc-maçonnerie et absolument donc pas du tout condamnable. Alors que fait Monseigneur Benigni? C'est un journaliste, en fait, c'est un homme qui a le souci de l'information vraie. Il avait été longtemps, donc, il venait de journalisme, il avait été affecté aux affaires diplomatiques de Rome et à la politique étrangère, donc il avait une longue expérience de la presse et en particulier un intérêt, dit Poula, pour l'information religieuse. Donc il prend l'initiative d'un bulletin de nouvelles politico-religieuses qui s'appellera donc la correspondance de Rome. Et que rendir vite célèbre les hostilités qu'il est suscita. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à détecter les modernistes, donc évidemment, il est cinglé au passage. Ce bulletin devint le siège d'une agence et le nœud d'un réseau de correspondants. Donc, c'est un petit bulletin qui a des correspondants dans tout le monde entier. Les uns accrédités dans la grande presse, donc des correspondants qui écrivent aussi bien dans d'autres journaux. Les autres responsables de faits catholiques. Ils sont assez puissants. Ils arrivent à faire passer leurs idées, écrire dans tout ce qu'ils présentent comme papier, on pourrait dire, sous leurs mains. Mais s'y en tenir quand même de bonnes feuilles catholiques pour faire passer la vérité. C'est à eux principalement, mais aussi à tous les sympathisants qui entendaient soutenir cet effort, que Benigni offrit pour les associés, donc tous ces correspondants de presse, eh bien justement cette société qu'on a appelée donc Sodalitium Pianum. Combien sont-ils, ces correspondants? Qu'est-ce que c'est que cette société? Alors il y a toute l'histoire qui serait trop longue à développer de la sapinière, que Poura a écrite dans un livre qui s'appelle Intégrisme et catholicisme intégral, c'est l'histoire de la sapinière. Comment on a découvert les documents, comment on a découvert les noms de ceux qui en faisaient partie, etc. Combien sont-ils? La première estimation avait été d'un millier. L'estimation d'un prêtre, l'abbé Mouret, qui est sulpicien, qui avait eu photocopie justement de certains textes qui avaient été saisis, l'occasion de la guerre d'ailleurs. En fait, c'est une erreur. Il s'était probablement dit, maintenant c'est une question résolue, dit Poula, c'est ce que tous les auteurs ou autres disent, une cinquantaine. Mais ils sont efficaces, évidemment, et puis sérieux. Et ils sont tous prêtres et religieux, ceux qui travaillent vraiment avec Mgr Benigni, pour écarter donc l'influence moderniste. Donc vous voyez, ils se rangent, et ils s'en félicitent, derrière Saint-Pédis, se félicitent de cette encyclique, parce qu'ils avaient déjà détecté Mgr Benigni, et bien effectivement, ce ferment d'erreur très grave, cette gangrène qui s'écoulait à l'intérieur, et en particulier parmi le clergé. Alors ils pourraient lire dans le livre de Poula, dans le catholicisme, etc., des listes qu'ils ont faites, intéressant de voir, donc ils cataloguaient les gens, en particulier les évêques, parce qu'ils préparaient déjà la prochaine élection après Saint-Pédis, hein, qui était déjà, savoir qui était bien, qui n'était pas bien, en quelque sorte. Donc c'est amusant de voir quelques qualificatifs d'évêques célèbres. Voilà ceux qui vont agir pour aider, donc Saint-Pédis, encore une fois, dans sa lutte contre le modernisme. Vont-ils réussir? Ils sont efficaces, Mgr Benigni est très influent. Tout ce qu'il a réussi à trouver de vrai, bien sûr, c'est fondé. Donc il trouve les écrits, il arrive à retrouver les véritables auteurs de papiers qui paraissent sous des pseudonymes. C'est tout un travail. Et il fait passer donc tous ces documents à Mgr Besson, donc, qui est l'auxiliaire du pape Saint-Pédis, et qui lui condamne alors en fonction des preuves qu'on lui a apportées. On pourrait ainsi penser que 1907 encyclique paraît, le temps de remédier à la chose, eh bien, le modernisme serait vite étouffé, et que les Loisy et compagnie finiraient par mourir. Est-ce que le modernisme est mort? Oui ou non? Est-ce que Saint-Pédis a réussi à tuer, par Pachendi, ses ennemis? Eh bien, voyons alors, faisons un petit peu une chronique de ce qu'on peut dire, de ce qu'ont pu dire les auteurs, suivant les dates. Voyons dès 1908 ce que dit un prêtre italien, car le modernisme n'est pas simplement que français, il est aussi italien et allemand, et peut-être né italien. Ce prêtre s'appelle donc Alexandre Cavalanti. Il est donc la conférence dans laquelle il va dire ce qu'il pense du modernisme en 1908 est publiée par le père Emmanuel Barbier qui est connu donc pour sa revue d'abord qui s'appelait La critique du libéralisme, qui est très célèbre, dans laquelle justement Emmanuel Barbier s'est attaché à détecter tout ce qui était moderniste dans tous les domaines. Donc c'était une revue. Et alors justement, il publie cette conférence. Il a ici écrit donc lui qui était au tableau, Histoire du capitalisme libéral. Il publie cette conférence donc d'Alessandre Cavalanti, qui dit ceci. Donc c'est le 16 novembre 1908. Vous voyez, on est très peu de temps, c'est un an après 1907, après l'encyclique. Qu'en est-il? Mesdames, messieurs, dit Cavalanti, de même que l'arianisme, le pélagianisme, le jansénisme, en disparaissant à la suite des continuelles et sévères condamnations de l'Église, laissèrent derrière eux une queue d'erreurs plus subtiles et moins apparentes, connues sous le nom de semi-arianisme, semi-pélagianisme, semi-jansénisme, ainsi aujourd'hui on constate le même fait. Le modernisme, dit Cavalanti, donc l'abbé Cavalanti, en cédant la place, démasqué et frappé à mort, laisse derrière lui d'autres erreurs qui, comme des germes, se répandent en masse et ruinent ou menacent de ruiner quantité de bons catholiques jusque-là fidèles à la devise Pro Ecclesia et Pontifice. Donc pour Cavalanti, en 1908, le modernisme, effectivement, alors été condamné à mort, il est mort sous les coups de l'encyclique Pascendi, mais comme toutes les autres erreurs, dit-il, il reste encore un petit peu de cendres allumées, c'est le semi-modernisme qui, lui, n'est pas éteint. Voilà. Alors il répète qu'il y a un semi-modernisme, et je déclare que s'il n'est pas aussi laid que son père, le modernisme, synthèse de toutes les hérésies, il est pourtant plus insidieux. Il est plus insidieux parce que les modernisants disent couramment que l'encyclique Pascendi ne les touche pas, qu'ils ne sont ni immanentisme, dans toutes les erreurs condamnées par Pascendi, ni agnostique, ni fidéiste, etc. Comme si l'encyclique Pascendi ne parlait pas donc aussi des problèmes qu'ils abordent eux-mêmes. Et ainsi, eux seuls, dont disent-ils, ces semi-modernistes, sont les vrais catholiques modernes, sans modernisme. Bon. Voilà un témoignage de 1908, quand même intéressant, parce que c'est un an après seulement le modernisme. Et il fait déjà ces distinctions donc entre les modernistes tels qu'ils ont été fustigés par Saint-Pilice, et puis déjà les semi-modernistes qui commencent à circuler. Et partout. Autre témoignage, alors, du l'abbé Barbier lui-même, en 1923. Alors, c'est dans l'histoire, justement, du catholicisme libéral, cette fois-ci. Donc, Histoire du catholicisme libéral, c'est le tome 4, à la page 370. Un mal aussi invétéré que le modernisme, plongeant ses racines au cœur même de l'Église, dont il répète le pape, et propagé par plusieurs de ceux-mêmes qui avaient la charge de défendre ces doctrines, parce qu'effectivement, il n'y a pas seulement des prêtres qui étaient modernistes. Un fut célèbre, c'est Monseigneur Mignot, évêque d'Albi, qui n'a jamais été lui-même condamné formellement, mais travaillé par en dessous. Il disait par exemple, allez-y à Loisy, allez-y, je suis avec vous, bon, mais lui restait dans l'ombre. Donc, il poussait de sa main délicate, Loisy en particulier, mais restait dans l'ombre. Donc il n'y a pas que les prêtres, malheureusement. Donc chargé de doctrine, c'est d'abord l'évêque. Donc je reprends Barbier, qui avait la charge de défendre ses doctrines, ne pouvait être extirpé d'un seul coup, dit Barbier, par la main pourtant si ferme de Pilice. L'arbre maudit n'en a pas moins été foudroyé par ses coups. Sans doute, ajoute-t-il, il poussera encore des rejetons. L'esprit moderniste subsistera. Mais, dit Barbier en 1923, facile désormais à démasquer, et tenu en respect, d'abord par les sentences pontificales, et aussi par les écrivains devenus plus nombreux qui auront compris le devoir de seconder, selon leurs moyens, l'œuvre d'assainissement qu'elles ont accomplie. On peut dire que comme Pilice a sauvé la France du schisme par son héroïque résistance à la loi de séparation entre l'Église et l'État, il a également sauvé sa foi, la foi de l'Église, par son inébranlable fermeté contre l'envahissement du modernisme. Et il termine en fustigeant un évêque, justement, lui aussi. Telle était l'œuvre de ce pontife magnanime, Saint Pilice, que ses détracteurs représentaient comme un curé de campagne. C'est ce qu'il avait été, effectivement, Saint Pilice. Alors, c'est entre guillemets, parce que c'est ce que ses ennemis reprochaient. Saint Pilice, disait-il, est un pape qui n'est qu'un curé de campagne, qui n'a aucune idée de ce que c'est que la diplomatie, la politique, et donc n'a de leçons données à personne. Ignorant, donc, dit-il, de toutes les questions, alors il reprend un terme, donc, d'un moderniste, donc un curé de campagne, ignorant toutes les questions, et conduisant la barque de pierre à la gaffe, ou, selon un mot attribué à Monseigneur Duchesne, et voilà l'évêque, Monseigneur Duchesne, au sujet de la condamnation du modernisme, s'illustrant, disait Duchesne, par son encyclique, c'est lui qui l'appelait ainsi, Digitus Inoculo. Donc c'est vous dire comment il traitait donc les modernistes, de quelle façon justement il parlait de ces textes du magistère. Il en avait cure, il s'en fichait complètement. Alors Monseigneur Duchesne était professeur lui-même, recteur, de l'Institut catholique, donc Paris, où enseignait Loisy, l'abbé Loisy. Alors lui, il n'a pas été excommunié, mais enfin, il a été écarté quand même pour plusieurs livres, justement, modernistes. C'est vous dire, cet institut catholique a été fondé, donc, en France, pour réagir contre l'enseignement, donc, de l'État, qui avait exclu désormais l'enseignement religieux, pour remettre en vigueur même le thomisme à l'instigation de Léon XIII, cet institut catholique en France, à sa fondation même, a pour recteur des gens qui sont modernistes. Monseigneur Duchesne, qui sera condamné pour en particulier son histoire ecclésiastique, Monseigneur Dulst, lui aussi, moderniste, voilà ceux qui malheureusement vont fonder l'Institut catholique. Bon, alors on pourra voir aujourd'hui, sont-ils ou non, sont-ils des successeurs de leur fondateur. Je pense que si on est là, c'est qu'il y a des raisons. Rien n'a échappé donc à la sollicitude surnaturellement éclairée de Pilis, il avait Barbier, sa clairvoyance a discerné et mesuré tous les périls, pénétré toutes les fausses doctrines contemporaines, déjoué toutes les manœuvres. Et la sûreté, la netteté de ses décisions ont résolu dans tout ordre les problèmes les plus compliqués. Donc pour Barbier, eh bien, le modernisme a été foudroyé par Saint-Pédis. Certes, effectivement, il restera un esprit moderniste, mais il sera facile à détecter puisqu'on a les moyens désormais de le reconnaître, puisque justement Saint-Pédis fait lever le masque. Alors on verra bien tout de suite de quelles fibres sont faites tel ou tel auteur, avec les moyens donnés par le pape. Donc il semble pas à cette lecture que désormais le modernisme puisse inquiéter. Voilà un témoignage donc de 1923, donc encore, c'est encore récent, enfin c'est peu loin, après Saint-Pédis lui-même. En 1929, témoignage plus intéressant peut-être, c'est celui de Rivière, Jacques Rivière, qui est le premier auteur à avoir écrit l'histoire du modernisme. Donc c'est important, parce que lui, il faut autorité. Avant Poulain, si vous voulez, qui est un auteur moderne, enfin moderne, tout à fait récent, avant Poulain, il y a donc Rivière. C'est le premier historien du modernisme. Il a écrit donc l'histoire du modernisme. Alors c'est lui qui a fait l'article du dictionnaire de théologie catholique que j'ai sous les yeux, en 1929. Donc. Alors il fait tout un exposé sur le modernisme, il y a tout un article sur le modernisme, donc c'est un dictionnaire, donc à la lettre modernisme. Il y a un article de Jacques Rivière, il expose ça en détail. Et il précise un petit peu ici, donc, ce qu'il en est une fois que Saint-Pédis a parlé. Alors, il explique ça à la colonne 2045. Il semble permis de dire, sans témérité, que la phase du modernisme aigu est maintenant close, et qu'une nouvelle poussée dans ce sens n'est guère conforme aux vraisemblances de l'histoire. Donc, en 1929. Bon. Alors, il donne pour ça... un auteur allait consulter Léonce de Grandmaison, qui est un jésuite, qui n'a pas été non plus sans atteinte de modernisme. Enfin, il s'est quand même battu contre lui. Au début, il avait été un petit peu séduit, et puis s'est repris. Enfin, l'abbé Bardier, qui épingle à chaque fois tout le monde en détail, ne l'a pas loupé. Bon, alors voyez donc, Jacques Rivière, pour lui, bon, le modernisme aigu, en tout cas, c'est fini, il est mort. Et il ajoute un peu plus loin, « Du modernisme, il ne subsiste guère en ce moment, au regard de l'observateur, que le souvenir plus ou moins obscurci d'une crise doctrinale depuis longtemps conjurée. Seuls les documents ecclésiastiques auxquels elle donne naissance, en lui assurant une place dans les cadres de l'enseignement théologique, la rappellent à l'attention distraite des nouvelles générations. » Donc, pour Jacques Rivière, c'est fini. L'histoire est close. Voilà donc un autre témoignage. Il précise d'ailleurs, « L'intervention énergique de Pédis eut au fait de ramener l'ordre, et rien ne laisse prévoir que le fruit en doit être perdu de longtemps. » Mais dans son principe essentiel, le modernisme est né du besoin d'adaptation de la doctrine, etc. Bon, mais celui-ci est achevé. Donc le modernisme, on n'en parlera plus. Si dans les cours d'histoire de l'Église, comme on pourrait faire ce soir, il y a eu une hérésie, Valérius, c'est vrai, il est mort. Loisy aussi d'ailleurs. Mais bon, l'arianisme, on en parle beaucoup moins, il est quand même éteint. Le modernisme, donc, d'après eux, bah aussi c'est éteint. C'est beaucoup plus vite d'ailleurs, parce qu'on est en 1929 pour lui, c'est déjà fini. Voilà donc un autre témoignage d'un auteur compétent, puisque c'est le premier historien. Alors parmi les tout à fait récents, vous avez en 1966 un autre auteur qui est assez souvent lu, quelquefois sans peut-être discernement justement, Daniel Rops. Daniel Rops qui a fait une histoire de l'Église en je ne sais plus combien de volumes, 13 ou 14, enfin il y a un volume par lettre, histoire de l'Église. Bon, ça coïncide, il a mis un tome, H, I, S, etc. Bon. Dans le tome 11 de cette histoire de l'Église qu'il a écrite, enfin qui a été publié en 1966, Daniel Rops dit ceci à propos du modernisme. Donc, semblables erreurs, celles dont on parle, n'empêchent pas que l'Église tira de la crise la conclusion qui s'imposait. Le désaveu officiellement infligé à les solutions funestes entraîne par lui-même l'obligation de les remplacer par une plus adéquate. C'est-à-dire que pour combattre efficacement le modernisme, il n'y a pas d'autre moyen que de reprendre dans un meilleur sens la tâche devant laquelle il a échoué. Cette remarque-là, il cite justement Jean Rivière, oui, comme quoi ils sont tous fouillés. On en trouve un, et finalement, ils se recopient tous les uns les autres. Cette remarque de Jean Rivière, le meilleur historien d'Hilaire-Hobbes de toute cette crise, le Rivaudon la référence, est pertinente. Vous voyez, il reprend à sa charge, d'Hilaire-Hobbes, le témoignage de Rivière. C'est fini. Il faudra faire autre chose. C'est précisément, donc, c'était dans la réponse décisive, dit-il, à la fin de cette crise, nouvelle orientation, en quelque sorte, désormais de l'Église après Saint-Pélice, ça sera Pie XI, le pape savant, qui va la donner. Et il ajoute, né des cendres du modernisme. Donc, ça prouve que c'est fini. Une élite de savants et de philosophes catholiques allait être au travail, totalement fidèle à l'Église, résolue à ne mener son œuvre que dans son sein et selon ses instructions. Et l'effort de cette pensée rénovée serait si fécond qu'aujourd'hui, un demi-siècle seulement après la fin de la crise, on peut considérer le modernisme comme un phénomène totalement dépassé. En 1966. Bon. Vous voyez, alors à l'époque, c'est Vatican II. Ben pour lui, le modernisme est un phénomène, alors il cite Rouquette, là, totalement dépassé. Voilà donc un autre témoignage plus récent. Vous avez la même chose en 1975, un autre auteur, Aubert, qui a fait aussi une histoire de l'Église, qui se vend, j'allais dire, partout, on la voit dans toutes les librairies. Alors, il dit la même chose d'ailleurs, Aubert, en 1975. Il dit ceci. Donc c'est page 213 de son Histoire de l'Église, publiée en 1975, c'est le cinquième tome, c'est l'Église étant moderne. La réaction de ceux qui avaient subi l'attrait des coryphées du modernisme fut beaucoup moins vive que certains ne l'avaient prévu. Chez la plupart, le loyalisme catholique l'emporta, et c'est cette généralité dans la soumission qui put donner ultérieurement l'impression que la crise moderniste n'avait été que le fait de quelques individualités isolées. Assurément, la masse des fidèles n'avait guère été atteinte. Mais, du moins en France et dans une mesure moindre en Italie, la fraction du clergé au courant de l'évolution des sciences religieuses et bon nombre de jeunes intellectuels catholiques avaient été largement touchés par le mouvement. Mais, donc, ils seront sanctionnés. Il le dit, Loisy, Tyrell, alors Loisy fut excommunié en 1908, Tyrell sera aussi excommunié, disent eux-mêmes, le modernisme est mort. Donc, vous voyez, il y a eu effectivement beaucoup d'influencés, il y a peut-être eu des traînées, mais, bon, c'est une chose qui a disparu. Au moins, dans sa phase... telle que, phase aiguë si on veut, telle qu'elle est décrite par Saint-Pélice. Enfin, un dernier témoignage, que j'ai trouvé plus récent, il y en a peut-être d'autres, sur le modernisme, parce qu'il faut trouver un témoignage sur le modernisme. C'est en 1985, c'est dans la revue Thomiste, une revue qui paraît toujours, publiée par les Dominicains, donc l'école de théologie de Toulouse, avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique, donc il y a des bons articles quelquefois, et puis il y a aussi des mauvais. Le père Toinet... Alors, a écrit un article qui s'appelle « Le modernisme sur ses vieux jours ». La revue, c'est le tome 2 de l'année 1986, donc avril-juin 1986. Donc, c'est un article sur le modernisme sur ses vieux jours. Et sur quoi s'appuie-t-il? Et aussi sur Poula. Vous voyez, tout s'enchaîne. Poula sur Rivière, Rivière, etc. Donc, finalement, en trouvant un, en général, on trouve les autres. Alors, c'est justement ce que faisait la Sapinière. Enfin, je ne suis pas de la Sapinière, mais souvent, on en trouve un, ils cherchaient la filière, ils arrivaient à retrouver qui étaient les auteurs des textes qu'ils avaient pu lire. Alors le père, oui je crois que c'est un père, Paul Toinet, qui est, pourrait-on dire, pour le qualifier lui, de la branche plutôt conservatrice de l'Église conciliaire, la tendance un petit peu du cardinal Ratzinger, alors est-ce un modernisme, on verra, on ne sait rien. En tout cas, il travaille sur le modernisme, il l'étudie dans ses derniers jours, sur ses vieux jours, mais il écrit ça en 1986, le 14 novembre 85, et il précise qu'il écrit juste avant le synode qui va fêter les 20 ans du Concile Vatican II, juste avant. Et lui, par contre, peut-être plus objectif, en 85, parle du modernisme sur ses vieux jours. Il existe encore, dit Pierre Toinet. Mais il dit, en substance, que c'est comme l'aile gauche, si vous voulez, de l'Église, et que cette aile gauche ne produit rien et qu'elle s'estompe et qui est en train de mourir. Cette fois-ci, c'est fait. Enfin, cette aile gauche est en train de mourir. Son texte est assez long, mais il y a un passage assez caractéristique de ce qu'il pense, lui, du modernisme. Il va dire donc que le modernisme en soi porte l'impuissance. Les thèses modernistes, dit-il, donc page 247, donc de ce numéro, donc c'est le numéro 2 de 86, les thèses modernistes ont été certes frappées par l'Église, mais à l'insu de leurs propagateurs, elles étaient déjà en elles-mêmes frappées d'impuissance. Et donc il dit, c'est vrai qu'ils ont été condamnés, mais les thèses elles-mêmes étaient impuissantes. Et elles étaient en ceci notamment que, étrangères par origine à la rationalité chrétienne authentique, elles anesthésiaient l'esprit des chrétiens, trop peu avertis à l'action qu'elles exerçaient sur eux. Bon, donc il dit finalement, vous voyez, en soi, impuissance. Alors il développe, je ne voudrais pas exploiter de manière facile le diagnostic d'impuissance que je propose finalement pour caractériser le mal moderniste, actuel, 85 en tout cas. Donc vous voyez, impuissance, il précise. Ce diagnostic n'a rien de facile ni d'ironique. Il me semble qu'il n'est pas, hélas, sans pertinence médicale. Car il existe aussi des maladies de l'âme. On peut identifier, dans l'ordre spirituel, des situations analogues à celles qui affectent éventuellement un homme dans l'ordre psychosomatique lorsqu'il souffre, au sens précis du terme, d'impuissance. Habituellement, ce n'est pas l'effet d'une déficience simplement physique, mais celui, dit-il, d'une inhibition profonde, jouant contre le dynamisme naturel, invitant l'homme donc à transmettre la vie. Alors il explique, il revient à ce phénomène naturel, montrant justement cette incapacité, c'est là-dessus qu'il insiste, de transmettre quoi que ce soit lorsqu'on est justement atteint d'impuissance. Et bien il dit, le modernisme, au sens propre, est atteint de cette véritable impuissance, il est incapable de transmettre. Donc, il porte cette maladie de l'esprit, impossible à transmettre. C'est pourquoi, dit-il, les vieux jours. Là, c'est fini. Il y avait des modernistes, mais en soi impuissants, c'est fini. Il précise un peu plus loin, donc. Alors qu'on transpose cela dans un domaine supérieur, celui de la vitalité de la foi, bon. Alors, au sein de l'Église, un avenir au service de la société des hommes, y compris la société moderne, en se disant tel. On n'est peut-être pas loin d'entrevoir l'éthiologie mentale secrète du modernisme. Le fait que celui-ci subsiste parmi nous aujourd'hui, dit-il quand même, en 1985. Donc là, vous voyez, il ne fait pas de distinction. Le modernisme subsiste aujourd'hui. Et semble se diffuser, dit-il, de façon contagieuse dans le climat d'une certaine ultra-modernité sans avenir. Et voilà pour lui le modernisme. C'est l'extrême gauche. Un siècle après ses premiers symptômes localisés à l'intérieur de la communauté catholique, ce fait ne signifie aucunement qu'il aurait en lui-même de pouvoir prolonger et renouveler sa jeunesse. Lors de ses premiers succès, il était déjà, dit-il, congénitalement vieux. L'Oisy était déjà vieux. En réalité, il étale laborieusement sa vieillesse en multipliant les vains effets de son illusion d'avoir l'avenir pour lui et pour ceux qui feraient les frais de cette illusion. Donc, vous voyez, le modernisme pour lui, c'est quelque chose qui est en soi impuissant et qui finalement enfin s'éteint en 1985. Bon, à voir. Donc ça, c'est le dernier jugement que j'ai vu sur le modernisme en 1985. Ces jugements sont des jugements portés par ceux qui ne sont pas, enfin, ou qui sont de loin modernistes. Qui ne sont pas, bon, c'est ceux que j'ai nommés, de l'abbé Barbier, l'abbé Cavalanti, qui sont intégristes. Les autres, alors Jean Rivière, il est classé par Poula comme progressiste, mais pas moderniste. Donc c'est vous dire. Toinet, alors je pense, vous voyez, Toinet, eh bien, il est plutôt progressiste, mais pas moderniste. Il est peut-être même conservateur dans les progressistes. Bon, c'est plein de nuances. Mais qu'est-ce que les modernistes disent d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils disent qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils disent qu'ils sont vivants? Alors faisons-les parler, parce qu'en fait, ils sont morts naturellement aujourd'hui. Qu'est-ce que dit, par exemple, en 1909, Loisy, Alfred Loisy, qui fut donc condamné par Saint-Pélice. En 1909, alors c'est cité, ça va plus vite, par Jean Rivière, justement, dans son article, le DTC, donc, article modernisme, à la colonne 2042, il cite le témoignage de Loisy lui-même. Alors, après l'encyclique, donc, Loisy croyait pouvoir parler de tous, entre guillemets, comme de morts. Donc c'est Loisy qui écrit ça dans la revue critique du 21 octobre 1909. Il parle de modernistes comme des morts. C'est fini. Bon. Alors un autre, dont je me garderai de préjuger ce que deviendra le modernisme. Ce que je crois voir pour le moment, dit encore Loisy, est qu'il est en pleine déroute et ne me semble même pas difficile à anéantir. Donc c'est Loisy lui-même qui parle. C'est lui qui a déclenché l'incendie, il dit bon, on devrait mourir. Et on ne voit pas comment on pourrait réactiver l'incendie que j'ai pourtant mis. 1909, Loisy donc. Un autre moderniste qui sera lui aussi donc condamné par Saint-Pédice et qui mourra à l'époque de Pie XII, d'ailleurs fait bizarre en tout cas, il recevra finalement les sacrements, donc Irène, sans avoir à abjurer donc, les erreurs qu'il avait prônées. Bon, dit-on. Alors c'est publié encore par Jean-Rivière dans le TC, donc Tyrell, T-Y-R-E-2-L, c'est un anglais, l'abbé Tyrell. En lui, c'est un témoignage de 1908, alors c'est cité colonne 2044. Non, c'est 2042, pardon, la colonne dans laquelle Georges Tyrell est cité. « Je crains que nous soyons obligés de reconnaître, dit-il, que l'intérêt suscité par la nouveauté de l'insurrection moderniste s'est affaibli et que le public commence par s'en fatiguer quelque peu, en 1908. Quand je regarde autour de moi, je suis amené à penser que cette vague de résistance moderniste est au bout de ses forces et a donné tout ce qu'elle pouvait donner pour le moment. » Pour le moment quand même. Mais, vous voyez, il avoue lui aussi, dès 1908, il sent, ils sont peut-être pessimistes, enfin pour eux, que ça semble fini, quoi. Traîner de pouce est terminé. Un an plus tard, finalement, il ne reste pas grand-chose de moderniste. Enfin, il ajoute quand même, peut-être plus perspicace, « Il nous faut attendre le jour où, grâce à un travail silencieux et secret, nous aurons gagné une bien plus grande proportion de l'armée de l'Église à la cause de la liberté. Et pour le moment, il dit, ben, c'est raté, en quelque sorte. C'est un raté. Notre coup d'envoi est un raté. Il faudra attendre, c'est pas mûr. On pourra le relancer, le modernisme, ça ne sera pas nous, ce sera des successeurs, mais pour le moment, c'est raté. Le modernisme meurt, c'est Thiol. Voilà donc un modernisme, donc Tyrell, en 1908. Un autre moderniste, l'abbé Houtin, en 1911, qui a écrit d'ailleurs La vie de la Belloisie, qui est intéressant, ça se lit comme un roman policier, là encore, je vous conseille, enfin, façon de parler, n'est-ce pas ? Houtin, qui était moderniste, qui a écrit lui-même une histoire du modernisme catholique. Houtin a écrit La vie de l'Oisie en disant « Moi-même, j'ai été dupé par l'Oisie. Je ne savais pas combien il était, effectivement, renégat, finalement. » Il a été trompé, Houtin a dit dans ce livre, que lui-même fut trompé par l'Oisie. Il l'avait cru encore sincère pendant un certain temps, alors qu'il finalement, il finit par reconnaître, une fois mort, qu'il y avait belle lurette, que l'Oisie ne croyait plus à rien, il n'avait plus la foi, mais restait dans l'Église, et en parlait. Alors il est cité, celui-là, page 2044 du DTC encore, Houtin. Donc c'est dans son histoire, justement, du modernisme catholique, à la page 385. Un coup d'œil jeté sur la catholicité en 1911, 8 ans après l'avènement de Pilis, écrit donc Houtin, suffit pour constater que le souverain pontife a presque entièrement rétabli l'ordre théologique. Presque partout, il avait réussi à écraser les novateurs. Donc il montre, il semble que lui aussi dit la même chose, c'est fini. Les quelques niveaux de résistance, donc c'est terminé, ça va s'étioler là encore. Vous voyez donc trois modernistes qui sont les têtes d'affiche, les plus célèbres. Loisie, Houtin et Tyrell, tous les trois, sont d'accord pour dire eh bien, que ce modernisme est finalement s'éteint, c'est fini, c'est la déprime chez eux. Donc voilà, deuxième série de témoignages. Troisième série de témoignages, plus importante, celle-ci, qu'en ont dit les papes. Est-ce qu'après Saint-Pédis, on a encore parlé de modernisme ? Est-ce que ça existe toujours ? Est-ce qu'ils s'en sont plaints ou est-ce qu'ils s'en sont réjouis ? Bon, je ne vais pas voir tous les papes. Je vais voir d'abord, bon, Saint-Pédis, c'est clair, c'est pas Chendi, on va y revenir ensuite. Benoît XV. Alors, Benoît XV, il est cité par Madiran dans son livre L'intégrisme, histoire d'une histoire, aux nouvelles éditions latines. C'est justement l'histoire de la sapinière qu'on avait accusée d'être société secrète. Bon. Alors, à la fin de son livre, il a de très belles remarques, dont je ne fais pas tout à l'heure, sur justement le modernisme. Donc, ici, Daniel Robbs et d'autres en particulier. Alors, il parle, donc il cite, c'est pour ça que ça va plus vite, le témoignage de Benoît XV. Benoît XV, c'est le pape qui a succédé à Saint-Pédis. Donc en 1914, qui dit donc Benoît XV le 1er novembre 1914, donc l'encyclique 1907. Ainsi surgirent les monstrueuses erreurs du modernisme, dit Benoît XV, que, à bon droit, notre prédécesseur a proclamé le rendez-vous de toutes les hérésies et qu'il a solennellement condamné. Cette condamnation, dit Benoît XV, vénérable frère, nous la renouvelons dans toute son extension. Et comme une contagion si délétère n'est pas complètement étouffée, mais se glisse encore ça et là, quoiqu'elle est à latent, que tous se gardent bien soigneusement, nous les exhortons d'une peste si dangereuse. Donc pour lui, Benoît XV, eh bien, le modernisme n'est pas fini. Il existe encore, voyez, à l'état latent. Donc il prévient les fidèles de s'en garder, puisque, évidemment, on l'a vu, c'est extrêmement dangereux. Pie XI, le pape qui succède à Benoît XV, écrit dans l'encyclique Ubi Arcano, du 23 décembre 1922, alors, combien sont-ils en effet ceux qui admettent la doctrine catholique sous l'autorité civile et le devoir de lui obéir, le droit de propriété, les droits et devoirs des ouvriers, de la terre et de l'industrie, les relations réciproques des États, les rapports entre ouvriers et patrons, les relations du pouvoir religieux et du pouvoir civil, les droits du Saint-Siège et du pontife romain, les privilèges des évêques, enfin les droits du Christ, etc., sur tous les hommes et tous les peuples. Bon, Saint-Pion se voit le problème de façon plutôt sociale du modernisme. Même cela, dit-il, donc tous ceux qui parlent finalement de ces relations, mais qui sont plutôt sociales, enfin ce qu'on appelle le rôle social, même cela, dans leurs discours, leurs écrits, et tout l'ensemble de leur vie agissent exactement comme si les enseignements et les ordres promulgués à tant de reprises par les souverains pontifs, notamment Léon XIII, Pie X et Benoît XV, avaient perdu leur valeur première ou même n'avaient plus du tout être pris en considération. Et il ajoute, ce fait révèle comme une sorte de modernisme moral, juridique et social. Nous le condamnons aussi formellement que le modernisme dogmatique. Donc vous voyez, Pie XI montre qu'il y a toujours un modernisme, mais que le modernisme de Saint-Pédis a fait suite à un autre modernisme qu'il appelle modernisme moral, juridique et social. Vous voyez ? Alors, est-ce que c'est des erreurs dont Saint-Pédis n'a pas parlé ? Est-ce que c'est un autre modernisme ? Comment faudra-t-il le définir ? A-t-il été défini par les papes qui ont suivi Saint-Pédis ? Bon, autre question. Mais vous voyez donc là, il dit qu'il n'est pas fini. C'est finalement une autre façon pour lui, donc une autre façon d'être moderniste. Et il le condamne, donc comme tout modernisme, c'est-à-dire vouloir adapter l'Église à la société moderne. qui est finalement, d'après ce que dit Saint Pie X, d'après ce que dit ici Pie XI, une société sans Dieu et même sans Jésus-Christ. Pie XII, au dire de Maritain, qui connaît ses écrits, on ne relève pas, en tout cas de façon précise, le terme, on pourrait dire moderniste, de façon précise, enfin de condamnation du modernisme dans les écrits, mais Pie XII sans arrêt, enfin très souvent, fréquemment disons, revient sur la distinction qu'avait déjà fait Pie XI, de vouloir séparer, justement, au moins dans l'ordre social, eh bien, la cité, disons, de Dieu. Donc, ce modernisme juridique et social dont parle Pie XI, eh bien, Pie XII l'accentue, le met davantage, le montre davantage. Il manifeste, effectivement, que c'est ainsi, désormais, que se manifeste le modernisme que Saint Pie X avait condamné en tant que dogmatique. Donc, vous voyez, il va plutôt voir cette nouvelle forme, ou cette déviation, si on veut, du modernisme condamné par Saint Pie X. C'est plutôt donc un modernisme social. Bon. Voilà le modernisme, alors tel qu'il est décrit rapidement, il faudrait voir en détail justement par Saint Pie X. Voilà comment réagissent les intégristes, la Sapinière, les Barbiers en particulier, Monseigneur Benigny. Voilà comment le juge, donc quelques auteurs d'histoire. Voilà ce qu'en pensent donc d'autres, et puis voilà ce qu'en pensent les papes. Il reste cependant un point à développer, ou à mettre l'accent sur un point particulier, sur lequel d'ailleurs Madiran revient lui-même, c'est Saint Pie X lui-même. Qu'est-ce que Saint Pie X a pensé lui-même du modernisme après l'encyclique Pascendi? Est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit, bon, c'est fini, voilà. Est-ce qu'il a crié victoire au balcon de Saint-Pierre, j'ai gagné. C'est fini, ils sont morts, qu'en est-il? Eh bien, Saint Pie X, vous avez dû, enfin peut-être senti, perçu, à travers la cure de ce début de son cyclique, l'alarme qu'il jette, et même on sent l'inquiétude qu'a Saint Pie X vis-à-vis de cette erreur. Inquiétude qu'il avait déjà au début, en prenant son pontificat, puisque déjà, il avait, dans sa première encyclique, manifesté, donc effectivement, ces foyers d'erreur qui se développaient. Mais on sent cette inquiétude grave, enfin pas inquiétude sensible, inquiétude grave, donc qui grandit chez Saint Pie X, de voir l'erreur gagnée. Il la dénonce, bas les masques, dans Saint Pie X, dans Pascendi, mais est-ce que vraiment les masques sont tombés? Est-ce que vraiment tous les modernistes sont morts? Ont-ils été tous condamnés? Pour le savoir, il n'y a qu'à lui demander à lui-même, Saint Pie X. Est-ce qu'il a écrit d'autres choses au modernisme? Est-ce qu'il n'y a que Pascendi qui traite du modernisme? Eh bien non. Et en particulier, Saint Pie X va y revenir dans un motu proprio très important, le 1er septembre 1910. Motu proprio établissant des lois pour repousser le péril modernisme. Si le modernisme, et Madiran insiste là-dessus dans son livre, dans l'intégrisme, était mort, s'il avait réussi à l'éteindre, en condamnant Loisy en particulier, Tirel, Moutin, il n'y a pas besoin d'y revenir, c'était fini. Bon. Or, 3 ans plus tard, quasiment jour pour jour, Saint Pie X trouve bon d'y revenir. Et ces termes sont très importants. Donc il s'adresse là, c'est la fameuse, le motu proprio connu, donc Sacrorum Antistitum, il s'adresse aux évêques bien sûr, et il insiste. Attention, le modernisme n'est pas mort. C'est lui-même qui va le dire. Il n'est pas réussi. Saint Pie X fait en quelque sorte comme le constat d'échec, malgré lui, de son encyclique Pascendi. Aucun évêque n'ignore, dit-il donc, qu'une race, et là les termes sont très forts et très nets chez Saint Pie X, aucun évêque n'ignore, croyons-nous, qu'une race très pernicieuse d'hommes, les modernistes, même après que l'encyclique Pascendi d'Amici Gregis, donc celle-ci, eut levé le masque dont il se couvrait, n'ont pas abandonné leur dessein de troubler la paix de l'Église. Ils n'ont, c'est pas fini. Ils n'ont pas abandonné. On a pourtant levé le masque, mais ils n'ont pas abandonné. Alors évidemment, on pourrait se poser la question, et de façon très sensible, si on a levé le masque et qu'on le voit, celui qui était sous le masque, comment se fait qu'on n'arrive pas à l'éliminer? Saint Pie X précise. Donc il y a une difficulté. Ils n'ont pas cessé, en effet, de rechercher et de grouper, et voilà le mot fort, en une association secrète. Et Saint Pie X en latin, donc in clandestinum fedus. Donc il dit, là il les qualifie comme ça, une association secrète dans l'Église. Ce sont les modernistes. De nouveaux adeptes, d'inoculer avec eux dans les veines de la société chrétienne le poison de leurs opinions, par la publication de livres, de brochures, dont ils taisent ou dissimulent les noms des auteurs. C'est ce qu'ils feront. Loisy, par exemple, donc une fois qu'il sera condamné, va continuer à écrire, mais sous des pseudonymes. Alors évidemment, la Sapinière va chercher, c'est là qu'ils sont intéressants et qu'ils sont nécessaires même, arriver à recouper donc les écrits et à montrer qu'ils continuent sous des pseudonymes à écrire, ou bien les liens qu'ils ont entre eux. Si après avoir relu notre encyclique, bon, etc., on considère attentivement, dit Saint Pie X, cette audacieuse témérité qui nous a causé tant de douleurs, on se convaincra sans peine que ces hommes ne diffèrent en rien de ceux que nous avons dépeints dans ce document. Donc, il dit, voilà, ils sont cachés dans l'Église. Il constitue même, semble-t-il, une association secrète. Une association, c'est pas une multitude hasardeuse et désorganisée d'hommes. Une association, c'est un regroupement. Ça suppose une organisation, une tête, une fin, des moyens. Association secrète dans l'Église. Voilà la douleur de Saint-Philis dont qu'il dit très nettement dans ce motu proprio. Et il le termine, ce motu, en disant « Frappé de la gravité du mal ». Et il le termine le 1er septembre 1910. Donc il a dit « Ils sont société secrète ». Et comment termine-t-il? On pourrait dire bah « Voilà, j'ai enfin levé le masque, je vous préviens ». Non, on pourrait dire « Il laisse des points de suspension ». Frappé de la gravité du mal, qui croît de jour en jour. On a l'impression qu'il ne peut plus arriver à éteindre cet incendie. Donc du mal qui croît de jour en jour et auquel on ne saurait, sans le plus grand danger, davantage de s'opposer, nous avons jugé bon d'édicter ou de rappeler ses prescriptions, d'ordonner qu'elles soient rigoureusement observées. Donc il va donner ensuite une série de prescriptions très nettes, très difficiles et très claires pour combattre, enrayer, éliminer tout modernisme, qu'il aura déjà d'ailleurs manifesté dans Pachendi, mais qu'il va reprendre ici. Mais on voit, voyez, l'angoisse, c'est peut-être pas le mot, l'horreur, enfin, de Saint-Pédis, qui voit ce mal, cette gangrène, en quelque sorte, dans l'Église, qui ne peut pas enrayer. C'est la gangrène. Gangrène, puisque ça détruit, c'est la propre d'une gangrène. La gangrène, elle détruit, effectivement, les germes vitaux, les énergies vitales de l'Église. Jusqu'à détruire l'Église elle-même, renverser le fond en comble du règne de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que Loisy est bien mort? Ou est-ce qu'il a dit qu'il s'étiolait pour faire croire en bon moderniste qu'il aurait été, en quelque sorte, faire croire que c'était fini? Est-ce qu'il n'a pas finalement par en dessous, lui-même, lancé ou organisé cette société? Comment savoir ce que devient une société secrète? Mystère. Et c'est un mystère, enfin, c'était un mystère. C'est important quand même. Saint-Pilice, voyez, parle de secte, de société secrète, donc de secte. Les modernistes sont une secte, qui à l'époque de modernistes sont dans l'Église. Cette secte entend rénover l'Église. Que vont-ils devenir? Existe-t-il toujours? Voilà la question, le modernisme est-il mort ou vif? Il se cache dans leur Saint-Pédis, reviendra là-dessus encore à la fin de sa vie, donc le dernier témoignage écrit qu'il va donner, le 27 mai 1914, document cité par Madiran, donc Saint-Pédis encore, vous voyez c'est encore après, donc 4 ans plus tard. Nous sommes hélas, dit Saint-Pédis, en un temps où on accueille et adopte avec grande facilité certaines idées de conciliation de la foi avec l'esprit moderne. Idées qui conduisent beaucoup plus loin qu'on ne pense. Il est prophète, on pourrait lire. Beaucoup plus loin qu'on ne pense. Non pas seulement à l'affaiblissement, dit Saint-Pédis en 1914, mais à la perte totale de la foi. Donc 14, qu'est-ce qu'il fait? Reprend 1907 Saint-Pédis, Pachendi. L'affaiblissement, pas seulement, perte totale de la foi. On ne s'étonne plus d'entendre les personnes qui se délectent de mots très vagues, d'aspirations modernes en face du progrès, de la civilisation, en affirmant l'existence d'une conscience laïque, d'une conscience politique, opposée à la conscience de l'Église, contre laquelle on prétend au droit et au devoir de réagir pour la corriger et la redresser. Etc, etc. Oh, combien de navigateurs, combien de pilotes, et ce qu'à Dieu ne plaise, combien de capitaines faisant confiance aux nouveautés profanes et la science monteuse du temps, au lieu d'arriver au port, ont fait naufrage. Vous voyez, c'est le cri d'alarme, parce qu'il va mourir Saint-Pilice en 1914, donc, c'est le cri d'alarme qu'il jette à la fin de sa vie. Il a voulu le sanctionner de façon très précise, très nette, au point de vue doctrinal. 1910, il s'alarme encore, il s'inquiète. 1914, il meurt dans la même inquiétude. Cette secte, puisque c'est une secte qu'il a qualifiée en 1910, elle n'est pas éteinte. Elle n'affaiblit pas seulement la foi, elle la détruit. C'est toujours, donc les mots, vous voyez, de Pachendi qui sont repris. C'est comme l'inquiétude constante et latente chez ce pape. Et ça correspond bien à son but. Vous savez que sa devise était « Omnia instaurare in Christo ». Tout instauré dans le Christ. Quel est l'adversaire? Tout instauré dans le Christ. Quelle est la négation? C'est ne rien ou instauré dans le Christ. C'est détruire, donc Jésus-Christ, détruire de fond en comble le règne de Jésus-Christ. C'est vraiment l'opposition même à son pontificat. Donc Pachendi n'est pas une encyclique par hasard, ou travailler c'est vrai, mais à la limite qu'il n'aurait fait qu'écrire, que signer et pas écrire. Parce que de fait, on a cherché à savoir qui avait préparé le travail, qui l'avait rédigé. Actuellement, bon, les témoignages ne sont pas tous les mêmes, c'est divergent. Certains disent donc c'est Lemus, d'autres disent c'est Bio et Lemus. Bon, alors je laisse la question à suspens, en ne connaissant pas la réponse. Qu'en est-il de cette secte? Et ça sera la fin de cet entretien de ce soir. Est-ce qu'il y a toujours une secte moderniste? Comment savoir? Eh bien là encore, demandons ceux qui ont étudié la question ce qu'ils en pensent. Le premier, c'est Madiran, 1964, donc dans son livre Intégrisme, page 262. Eh bien, il pose deux objections. Si le modernisme a survécu, dit Madiran, il n'a pu survivre absolument identique. Quelqu'un qui est vivant cherche toujours à s'étendre. A-t-il eu des contacts avec d'autres sociétés secrètes? Madiran lève le problème. Par exemple, avec le communisme, voyez, qui serait caché dans l'Église, avec la franc-maçonnerie. Est-ce que tout ça fait un? Est-ce que ça fait trois? Est-ce qu'ils n'ont aucun contact? Comment le savoir? Ils sont tous secrets. Donc si le modalisme a survécu, il n'a pu survivre absolument identique. Il s'est ramifié. Il s'est amplifié. Jusqu'où? S'il a survécu, comment se fait-il que le magicien n'en ait plus parlé? Le modernisme, alors, a survécu, semble-t-il, et Emma Durandi, eh bien, effectivement, il a changé d'aspect. Il est devenu, justement, un modernisme social, beaucoup plus que dogmatique, comme il a pu l'être à l'époque où Saint-Pilice a écrit Pushendi. Le modernisme, dit Madiran encore, page 263, le modernisme s'est fait social, mais c'est toujours le modernisme. Et il précise, c'est toujours la séparation, tout séparé de la foi. Et laisser la foi isolée dans un univers hostile, voilà l'esprit moderne. Bon voilà, pour Madiran, si vous voulez, cette secte existe toujours, on ne peut pas la détecter, on ne sait même pas qui en fait partie, mais on en voit les effets. Les effets, c'est la séparation de la foi du reste. Vous avez la foi très bien, ben on va voir comment pour le moderniste, on l'a au fond du cœur, et bien qu'il y reste, elle est bien là, et puis c'est tout. Autre témoignage, toujours les mêmes auteurs, c'est Daniel Hobbs, en 1966, dans le même livre, donc dans son histoire de l'Église. Le modernisme est-il mort? Est-ce une secte? C'est page 301, cette fois-ci. Alors, est-ce à dire que tout était anéanti de l'expérience moderniste? On a vu qu'au point de départ, dit Daniel Hobbs, les intentions des modernistes étaient justes. C'est la façon dont ils les ont réalisées qui ont été condamnables. Astucieux, ça, c'est Daniel Hobbs. Ce qu'il disait était vrai, mais il ne fallait pas le dire comme ça. Et alors, il cite, c'est intéressant, « Je crois, disait Monseigneur Lacroix, donc, évêque de l'époque, de 1910 par là, évêque de Tarentaise, que pour avoir voulu aller trop vite, dit Lacroix, et trop loin, les modernistes ont compromis ce qu'il y avait de très légitime dans leurs aspirations. » Inutile de vous dire ce qu'il pense, ce Monseigneur Lacroix. C'est terrible de voir ça. Il dit, mais finalement, ils n'avaient pas tort, ce qu'ils ont dit, cette adaptation à la modernité du monde, bonne chose. Mais il ne fallait pas faire comme ça, parce qu'on a raté la preuve. C'est ce que dit Loisy, Houtin, c'est fini, on a raté, mais trop vite. Bon. Cette erreur de tactique, reprend Daniel Hobbs, dégénérée en erreur doctrinale. Et voilà qui est intéressant. C'est pourquoi Daniel Hobbs, le début n'est pas une question de doctrine, c'est une erreur de tactique, pas pareil. N'autorise évidemment pas à rejeter ce qu'il y avait d'utile, de nécessaire, dans le désir de mettre le christianisme en mesure de résister à ses adversaires en leur prenant leurs âmes. Bon, bref, cela est si vrai qu'il serait facile de montrer, dit Daniel Hobbs, comment certains courants de pensée, dont on peut raisonnablement penser et dire qu'ils sont plus ou moins issus du modernisme, sont aujourd'hui admis par l'Église, une fois débarrassés de leurs erreurs, et s'exprimant dans un langage moins fracassant et plus précis. Donc on a changé la façon de faire, on a changé la façon de dire, mais le modernisme n'est pas mort. Et s'il y a une secte, alors il y a des hommes qui manipulent en dessous, on en voit en tout cas les effets, ce qui signifie qu'ils ne sont pas morts. Et alors il précise comment il voit ce nouveau modernisme. Ainsi serait-il important de dire dans quelle mesure le personnalisme d'Emmanuel Mounier prolonge ou non celui du père Labertonnière. Donc Labertonnière, père très célèbre aussi, donc moderniste, qui a été fusillé par le pape, condamné pour certains de ses écrits, interdit même de publier dans une revue. De fixer ce par quoi le père Teilhard de Chardin a mis en sens continuateur d'Édouard Leroy. Édouard Leroy, moderniste, condamné aussi. Se sépare de lui-même et le contredit. Donc vous voyez, il vous dit, les modernes actuels ont des liens avec les modernistes précédents. Donc il y a des liens. Et si donc alors la Bertonnière, Leroy et tout Antiquanti faisaient partie, étaient dans cette association, ils ont transmis ce virus, ce modernisme à d'autres, qui eux parlent au grand jour. Teilhard de Chardin n'avait simplement été que mis en garde par Pie XII, pas condamnation, Mounier non plus. Bon, Maritain, par exemple, sera aussi reprendra dans sa vie les thèses de Mounier. Voilà donc un autre témoignage. Un autre, dans un livre plus connu peut-être, c'est celui de Jacques Plancard-Assac, dans son livre L'Église occupée. Alors, dans son livre L'Église occupée, vous connaissez peut-être, donc il fait un petit peu le portrait, enfin il cherche plutôt à savoir si ou non l'Église est occupée. Voilà une bonne question. C'est un livre qu'il a écrit en 1974. Et il met cette phrase en exergue de son livre. Si on arrive à démontrer, dit Plancard-Assac donc, que toutes les nouveautés qui troublent aujourd'hui l'Église ne sont que les erreurs anciennes, constamment condamnées par Rome, on pourra conclure que l'Église, en cette fin du XXe siècle, est occupée par une secte étrangère, exactement comme un pays peut être occupé par une armée ennemie. Le but de cet ouvrage, donc son livre L'Église occupée, est de conduire cette démonstration pour le repos des âmes inquiètes, et permettre une plus juste appréciation des hommes et des choses. Donc il a fait son livre pour essayer de montrer que l'Église est occupée par une secte. Est-ce que les sectaires qui l'occupent, la dirigent, c'est autre chose? De fait, elle est occupée par une secte. C'est ce qu'il tente à montrer. Seulement, Plancard-Assac, dans son livre, a donc quelque chose comme 19 chapitres, mais le modernisme n'occupe qu'un seul chapitre, le 13e. Alors, est-ce que pour Blanquart d'Assas, effectivement, cette secte qui occupe l'Église a eu diverses phases? Est-ce qu'elle fut autre d'abord et puis a changé au cours des circonstances, y est passée par cette phase qu'on appelle le modernisme? Ou eh bien, est-ce que le modernisme est une autre secte? Alors, est-ce qu'il y a plusieurs sectes dans l'Église? Est-ce que ces sectes se battent entre elles? Compliqué la situation. Bon, Blanquart d'Assas ne fait pas distinction. Il voit effectivement, tout simplement, les germes d'erreur introduits en Église. Il commence à Érasme et s'arrête à Paul VI. Bon, en passant par le modernisme. Il dit, bon, bah, enfin, Paul VI, c'est les dernières phrases, il cite Paul VI pour la fin. Qui effectivement se plaint, donc il cite Paul VI parce que Paul VI se plaint. Il dit ça à la fin de son ouvrage, page 274. Rien ni personne ne peut faire que l'erreur devienne la vérité. La secte moderniste, dit Blanquart d'Assas, peut bien occuper l'Église. Elle ne saurait prétendre être l'Église. Ni Jean XXIII, ni Paul VI d'ailleurs, ne lui ont reconnu ce droit. Mais la politique vaticane de ces dernières années a favorisé l'avance des erreurs politiques et religieuses. Bon, vous voyez, il dit effectivement, alors il parle de modernisme, alors est-ce que c'est un regroupement de toutes ces erreurs? Est-ce que c'est finalement une secte dans le sens large, c'est-à-dire tous ceux qui ont travaillé dans l'Église à la corrompre? Ou bien est-ce que c'est quelque chose de précis? Est-ce que Blanquart d'Assas dit la même chose que Saint-Pilis? Bon, il ne semble pas tout à fait, justement. Pour Blanquart d'Assas, c'est plus général, c'est finalement tout germe d'erreur qui commence finalement avec le protestantisme, enfin Érasme. Voilà donc un autre témoignage. Enfin, après Blanquart d'Assas, alors les autres disent quasiment la même chose. Donc Aubert, on l'a vu, le modernisme sur ses vieux jours, donc il existe toujours. La secte est toujours au travail. Mais on a vu, c'est une secte donc d'impuissants, donc ça n'ira pas loin, ils sont vieux et ils vont finir par mourir. Ils y arriveront. Et puis, pour terminer cette recension, toujours le même, Émile Poulla, dans Modernistica, toujours, quelques phrases intéressantes à ce propos, page 30 en particulier. Sous cet aspect, donc, le modernisme, dit-il, cesse d'être l'aventure solitaire de quelques clercs ou universitaires d'avant-garde. En fait, il a la secousse annonciatrice du grand ébranlement qui va gagner tout le corps social catholique et que nous voyons à l'œuvre depuis quelques années à ciel ouvert. Dit donc Poulla, en 82. Donc pour lui, voyez, le modernisme, ça a été effectivement une lancée, ça a été déclenché par Loisy, Houtin, Tirel, La Bertonnière, Mgr Duchesne, Mgr Dulce et tous les autres, il y avait des quantités. Mais finalement, ça a pris, le feu a pris, contrairement à ce que croyaient les Loisy ou à ce qu'on dit. C'est un peu comme un feu de bois. Quelquefois, on croit l'avoir éteint, on s'en va, puis en fait, on n'a pas éteint, puis la maison brûle, parce qu'on est parti, on a cru éteindre, il restait quelques cendres, et ça suffit pour que la maison, enfin, pour que la maison prenne. C'est un peu le cas du modernisme, d'après Poulla. Il répète un petit peu la même chose, page 36. On a cru sans doute un peu vite que la condamnation romaine avait signifié la fin du modernisme. Comme s'il avait soudainement ressurgi, et ça ressurgit, c'est que ça était enfoui pendant un certain temps. On ne parle plus aujourd'hui que de son actualité, en 82. Lié à la crise, dit-il, entre guillemets, qui secoue brutalement le catholicisme après l'euphorie qu'avait engendré Vatican II. Bon. Alors est-ce que justement Vatican II a été l'incendie qui couvait en quelque sorte et que les cendres laissées par les Loisy ont enfin déclenché? Poulla toujours, pour finir, page 236, se pose la question, alors ces modernistes qui sont donc Loisy, Turmel, Houtin, Hébert, enfin lui, si vous voulez, les catalogues, ils sont tous dedans, il y en a des quantités, je préfère. Ont-ils du moins fait école? Difficile et passionnant problème de l'influence d'un homme ou d'une pensée et de sa transmission. La discrétion de Loisy, sa chétive santé et sa vie retirée, c'est vrai, quand il a été condamné, s'est retiré à la campagne, il vivait comme un solitaire, de façon exemplaire, enfin, façon de parler, ont donné l'impression d'un grand solitaire peu sociable, Loisy. Les témoignages abondent pour montrer que rien n'est moins fondé. C'est l'apparence qu'il avait, mais il a continué. Il a toujours eu un réseau, Poulla qui a travaillé la question. Il a toujours eu un réseau d'amis et de disciples, certains notoires, alors les Monseigneur Mignot, Monseigneur Lacroix, etc., qui lui étaient profondément attachés et auxquels il le rendait bien. Mais cette audience a été sans incidence directe et déterminante sur le mouvement des idées qui travaille aujourd'hui le catholicisme. Vous voyez, il distingue, bon, toujours des amis, il s'écrivait, toujours s'entretenait finalement, mais Poulla, vous voyez, alors qu'il a dit au début, on semble voir le modernisme ressurgir, c'est pas celui de Loisy, un autre. Peu avant le décret Lamentabili, c'est-à-dire juste le décret qui a condamné le modernisme, juste avant Pachendi, Jacques Chevalier, 1882-1962, c'est un philosophe, il a été professeur, il a été Grenoble, il a été ministre de Pétain. Jacques Chevalier écrivait à Loisy, c'est Poulla qui le cite avec ce qu'il est. « Pour tout dire, dit Chevalier, et vous me pardonnez ma franchise, je crois que c'est nous qui continuerons votre œuvre, comme d'autres reprendront la nôtre,
par des moyens très différents, suivant une ligne qui nous est sans aucun doute obscure. Soyez convaincus que les jeunes travaillent, que votre œuvre à vous aura été grande et féconde, que vos souffrances contribueront à la grandir encore et la rendre plus efficace. Bon, intéressant. Cette lettre date du 4 mai 1907, donc juste, vous voyez, avant même Pachendi. Voilà la situation. Ben, je crois que là, on a fait le tour, vous en parlez. Le modernisme à l'époque de Saint-Pédis, qu'en est-il? Il le fustige. Et qui nous ont condamnés, est-ce une secte? Et s'ils sont toujours vivants? Il reste une dernière question pour clore, et qui n'est pas moins, qui est importante. Est-ce que Saint-Pédis a déclaré, a donné une certaine valeur à son encyclique? Quelle valeur doctrinale à son encyclique? Je leur ai dit, bon, une encyclique n'est pas forcément infaillible. Vous savez, l'époque actuelle le manifeste bien. Bon, alors est-ce que l'encyclique de Pachendi est infaillible? Est-ce qu'il a dit, donc je déclare mon encyclique Pachendi infaillible, ex cathedra, et donc quiconque ne croit pas à ce que j'expose est excommunié, n'a plus la foi catholique? Voilà un problème difficile. Alors on est en théologie cette fois-ci, il s'agit de juger de la valeur doctrinale d'une encyclique d'un pape qui ne manifeste pas de façon explicite sa valeur. Alors en théologie, pour pouvoir porter un jugement en vérité, on fait référence d'abord et avant tout à l'autorité. Donc l'autorité en la matière. Donc les théologiens, l'opinion commune, qu'ont-ils dit de la valeur de cette encyclique de Pachendi? Et quelles sont finalement, quelles condamnations en cours ceux qui seraient qualifiés, enfin qu'on pourrait reconnaître d'après l'encyclique comme moderniste? C'est quand même intéressant de savoir. Alors, premier témoignage non des moindres, c'est Rivière, qui est à la fois aussi théologien, qui donc à chaque fois donne la valeur doctrinale de l'encyclique. Voilà ce qu'il en pense. L'encyclique Pachendi est un acte direct de la suprême autorité pontificale, ce qui lui assure une particulière solennité. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que c'est solennel. Est-ce que c'est infaillible? Est-ce que c'est ex cathedra? Non. En tout cas, ce n'est pas précisé ici. Donc l'encyclique Pachendi, d'après Rivière, ne semble pas infaillible. Il le précise. La question de son infaillibilité fut discutée dès l'époque. Et il parut à plusieurs spécialistes qu'il lui manquait, pour avoir la valeur irréformable d'un document ex cathedra, le caractère de définition précise requis pour cela par le Concile du Vatican. Vatican I, donc. Il précisait les conditions de l'infaillibilité, il y en a plusieurs, en quatre. Alors, on examine si les quatre conditions sont remplies par l'encyclique Pachendi. Il s'avère que dès l'époque, donc en 1907, les théologiens travaillent la question, regardent, et disent non. Il semble que les quatre conditions données par Vatican I pour l'infaillibilité ne soient pas remplies par l'encyclique Pachendi. Donc, conclusion du raisonnement simple, l'encyclique n'est pas infaillible, mais elle a une particulière sonalité. C'est donc le témoignage d'un auteur. Un autre auteur, donc un théologien, qui s'appelle le père Zigliara, qui est un carme, dans son volume donc, de théologie dogmatique et scolastique, enfin dans ses quatre volumes, dans le volume 1, paru en 1948, donc ça c'est en 29, dit ceci. Donc il explique d'abord toutes les condamnations modernistes, il y en a eu plusieurs, il n'y a pas eu que Pachendi, il y a eu donc en particulier la Mentabili, et il montre, alors il dit aussi, il précise que les œuvres des modernistes, en particulier Loisy en France, donc ont été condamnées. Et même le pape Saint-Pédis, vous savez peut-être cette phrase de Saint-Pédis, Loisy a voulu que j'en fasse un martyr et j'en ferai un excommunié. Saint-Pédis a excommunié Loisy, et pas une petite excommunication, mais la plus sévère dans l'Église, c'est celle qu'on appelle Vitandus. C'est-à-dire qu'il était excommunié nominement, donc il y avait, on pourrait dire, sa photo, si vous êtes pour de l'Église, son nom, sa photo, excommunié nominatim et personnalitaire, c'est-à-dire à éviter, donc personnage à éviter. Donc s'il rentrait quelque part, il fallait fuir. Donc c'était la bête noire, si vous voulez, de l'Église, Loisy. Saint-Pédis a été très ferme à son égard. Bon, ça montre quand même à quoi s'exposent ceux qui sont vraiment modernistes, qui remplissent, habillés des qualificatifs que Saint-Pédis va donner à l'encyclique. Mais attention, Saint-Pédis a bien précisé, les modernistes ne prennent pas tous toute la doctrine. Loisy n'a pas pris toute la doctrine, il n'est pas philosophe ou théologien, il est surtout professeur d'écriture sainte. Et pourtant, il a été excommunié comme moderniste, ça suffit pour être excommunié. Un seul point, la preuve, Loisy, suffit pour être excommunié. Bon, un autre prêtre italien, l'abbé Mouri, lui aussi, a été excommunié de la même façon que Loisy, nominatif donc être personnalitaire, en 1909, tandis que Loisy, ça date de 7 mars 1908. Bon, ça montre quand même l'importance des textes que promulgue Saint-Pédis et la valeur qu'il la donne lui-même. Donc elle était écrite donc, en 1907. Le 18 novembre 1907, dans un motu proprio, Saint-Pédis a ajouté une peine d'excommunication au contradicteur de son encyclique. Donc vous voyez, il renforce la valeur de son encyclique en ajoutant une peine. Encore le 16 décembre 1907, Saint-Pie y revient encore dans une allocution et il explique l'importance justement de l'encyclique Pascendi et des condamnations qu'il y a attachées, l'excommunication. Et donc ça manifeste l'importance plus grande que le pape y attache. On dit qu'il a approuvé, c'est un terme technique, une forma specialis. De façon spéciale, il approuve donc l'encyclique qu'il avait écrite avant. De fait, en cours l'excommunication, ça c'est sûr, quiconque prône des thèses, en totale ou en partie, expliquées par Saint-Pie en Pascendi. Il excommunie ceux qui tiennent donc ces doctrines que Saint-Pie va vouloir condamner. Alors, s'ils existent encore, sont-ils encore condamnés? Voilà la question. C'est une question difficile. Lorsqu'on cherche l'existence de quelque chose, dit Aristote dans ses livres de logique, pour arriver à montrer que la chose existe, il faut effectivement savoir ce que c'est. En conséquence, si on veut savoir si le modalisme existe, il faut savoir finalement ce que c'est. Il faudra donc tout simplement d'abord comprendre, et c'est ça qui est difficile parce que l'encyclique est difficile, tous les points développés par Saint-Pilis sont ce que c'est qu'un philosophe, moderniste, un théologien, un apologiste, un réformateur, etc. Les uns parlent d'un croyant, un historien. Et puis, dernière question, c'est est-ce une secte? Pour savoir ce qu'est une secte, il faut savoir si celui qui parle en théologie ne serait pas finalement lié à celui qui parle en philosophie, qui ne serait pas lui aussi lié en histoire. Bref, il faudrait créer la Sapinière ou alors être le Saint-Office. Bon. On a quand même quelques critères pour reconnaître un moderniste. Ils ont été donnés déjà, le fameux abbé dont on a cité le nom, Cavalanti, donc il y a finalement trois catégories. Tous comprendront que ces hommes, qu'ils soient vulgaires ou illustres, en haut ou en bas, rendent un service superbe au libéralisme ainsi qu'à la maçonnerie, par la confusion qu'ils portent dans le camp catholique et par l'énervement qu'ils opèrent dans les caractères. Dans cette masse de modernisants, je distingue trois grandes catégories. La première, celle des dupes, dont le nombre est infini. C'est la poussière d'hommes qui est aux ordres à la dévotion des malins des fortes têtes. Deuxième catégorie, c'est pas les dupes cette fois-ci, c'est les optimistes, qui en cédant du terrain et en marchant bras dessus, bras dessous avec les adversaires, croient augmenter le nombre des élus et prétendent attirer ainsi à l'Église, à la religion, de nombreux fidèles. Cela oublie, dit le Concile du Vatican, loin de conduire les dissidents à l'Église, finira par arracher à l'Église les catholiques. Voilà les optimistes. Alors ça, c'est peut-être encore plus infini que les dupes. Troisième catégorie, les fourbes ou les malins, ce sont les grosses têtes du semi-modernisme. Est-ce que ce n'est pas eux qui constituent justement la secte, les grosses têtes? Est-ce qu'elles sont apparentes ou est-ce qu'elles sont cachées? Est-ce que les grosses têtes ont encore un masque ou est-ce que effectivement les grosses têtes n'ont plus de masque et agissent au grand jour? Est-ce qu'on ne va pas déceler tout simplement avec cette encyclique eh bien, les grosses têtes modernistes qui ne sont plus du tout cachées et qui œuvrent eh bien, à ciel ouvert? Voilà ce à quoi je vous convie donc cette année, tout simplement. C'est pour ça que je vous invite là à la voir, le texte, ça sera plus facile, je crois, pour suivre.